J'ai un peu de mal à donner le numéro de cet épisode, Anthony, parce que est-ce que c'est Comedy News Weekly Summer Edition Volume 2, The Beats Goes On, ou est-ce que c'est Summer News Weekly Comic?
Je sais pas, c'est un peu comme si David Lynch faisait la numérotation.
Bouge pas, j'ai pas mis ma tagline. Nous, on a un grain, mais vous, vous avez un grain de sable. Tu vois, c'est l'été. Ils ont un grain. Attends, je l'ai. Ils ont un grain, trois petits points, de sable. Et puis là, genre, moi, je me fouille d'un culotte, puis en fait, avec faisant une tête, et toi, t'es comme, genre, disappointed in me, genre, ah, oh, classique Dan. Mais on voit derrière que quelqu'un, ou moi, avec ma troisième main, j'ai trois mains dans l'histoire, vient te verser une pelle de terre directement dans les shorts.
Et on dit, est-ce que la plage te manque?
Tout mon champ lexical aujourd'hui aura un lien avec la plage. J'espère que ça ne va pas vous désabloir.
Parce que là, c'est dégueulasse. Là, t'es en full mode canadien, cliché canadien.
Ah, là, je suis en mode full forêt. Je passe mon été dans des boisés, je cours avec des chiens, je fais du yoga. Honnêtement, c'est pas impossible que je sois déjà le père de trois petits arbustes à l'heure qu'il est, à force que je me suis transformé en tree hugger.
Il te manque plus que la chemise? T'as la chemise à carreaux et tout ça?
Pour l'instant, je n'ai que les budgets d'avoir une garde-robe sponsorisée par Zara Basic. Donc, à moi les différents teintes de gris, les différents tons de gris.
Est-ce que quand tu vas acheter chez Zara Basic, ils se disent, est-ce que vous êtes étudiant ou nouveau propriétaire? Est-ce qu'ils savent, tu penses directement, quel public ils ont?
Ils regardent de l'autre côté, en me laissant faire mes achats, de la même façon que tu veux pas regarder un SDF droit dans les yeux pour pas avoir une pitié mal placée qui pourrait être mal interprétée. Tu vois, t'essaies de sauver la dignité humaine partout où tu passes. Et chez Zara, quand j'arrive, ils font vraiment semblant que tout est normal.
Je comprends, je vois tout à fait. Comédie, est-ce que t'as vu des trucs?
Bah oui!
Est-ce que tu t'es remis de Lise Dion?
Oui, déjà, de un, mais de deux, il faut d'abord qu'on prenne un peu de tes nouvelles, parce que je dirais que la plupart du courrier qui est rentré à la tour Comedy News Weekly cette semaine, c'était pour dire, il me semble qu'on parle pas assez d'Anthony et de ce qui se passe dans sa vie personnelle. Donc, je voulais juste faire un tour de ta vie personnelle avant de commencer, si tu veux bien, avec un petit jeu que j'ai appelé... comment je peux dire ça? Le happy hour des questions. Moi, j'ai appelé ça serviette à la plage. Bon, je ne sais pas encore exactement pourquoi, mais ça y est, j'ai trouvé. C'est parce que tu vas étaler ta vie privée
okay.
devant nous. Et donc voilà, donc c'est cinq questions avec cinq thèmes différents. On commence évidemment du moins profond au plus profond, nom de ma sextape. comment va ton chien? Si mémoire est bonne, il s'appelle Dabo. Je pense que je vais commencer à me tromper dans ton nom. Alors, on est avec Toby Mirelli cette semaine pour le Comedy News Weekly. Comment va ton chien, Dabo?
Mon chien va très, très bien.
Est-ce que c'est vrai qu'à la base, son nom complet, c'est Les Copains Dabo? Et que t'as juste résumé ça à Dabo?
Il s'appelle Gabo, mais comme on est en pleine période du Dab, on a changé son nom, en fait.
Dabo.
On change son nom selon les... Il s'est appelé Plank King pendant tout un moment.
Moi, je te dirais que mon nom préféré, c'est quand il s'appelait Tectonicola. Ça a été... J'avoue que son époque, Cha-Cha-Charlotte, c'était pas si mal aussi.
C'est le chien le plus fucked up de toute la Terre. Il comprend plus rien.
À fond. Vous devriez le voir se ronger les ongles. On n'avait jamais vu ça chez un chien.
Mais il va chez le psy et ça se passe très très bien. Du coup, il est prêt à faire du stand-up.
Est-ce qu'il va raconter ses misères de chien? Laisse-moi faire le stand-up de ton chien. Ouf, 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 ouf.
Et comme pour Anna Gatsby, les gens écriront des articles en disant « Il révolutionne l'art du stand-up
». À fond. On n'avait jamais vu un tel changement dans le stand-up.
C'est qui est faute. Il faut arrêter avec vos articles sur Anna Gatsby. C'est très très bien ce qu'elle a fait, c'est exceptionnel, mais ça ne révolutionne rien du tout. Vu qu'à partir du moment où tu racontes déjà ta vie dans ton stand-up, t'y peux rien si t'as pas vraiment été violé. Je sais pas, c'est très violent ce que je viens de dire, mais ça te semble pas un peu logique?
Ça a coupé à des moments vraiment clés qui me donnent l'impression que si je réponds sans voir tous les mots de ta phrase, je pourrais finir voisin de cellule de Weinstein. Donc,
Je reprends. Il y a le show d'Anna Gatsby, donc je pense que tu as vu.
Oui, oui, oui.
Il y a tous les articles qui racontent que ça révolutionne l'art du stand-up. Je trouve que ça révolutionne pas grand-chose. Elle raconte juste sa vie. Il se trouve que sa vie est très triste et qu'il lui est arrivé des merdes pas possibles. Mais ça, c'est pas ça une révolution. C'est pas ça qui va changer le stand-up, parce que les gens parlaient déjà de leur vie dans le stand-up.
Ouais, mais là où je suis d'accord avec toi, ça veut dire ça est arrivé, c'est littéralement ce que Lenny Bruce a fait. À être brutalement honnête sur ce qu'il pensait, ressentait, ce qu'il avait vécu. Mais moi, j'avais jamais vu ce qu'elle a fait, par contre. Parce que...
Non, ça c'est vrai.
Elle a sacrifié tout un moment de son spectacle. Et je dis sacrifié, c'est pas tout à fait le bon terme, là, mais... Et je me rends compte que moi, je fais ça beaucoup, et je me suis rendu compte de ça cet été. On a tellement vu de stand-up que tout le monde joue un peu à être sincère. Tu vois, les risques sont pas si grands à être faussement sincère. C'est-à-dire que dire que t'as eu une enfance difficile... Le premier qui en a parlé, ou Richard Pryor, qui l'a fait de la façon peut-être la plus violente que je connaisse, c'était vraiment un risque. Mais aujourd'hui, tu risques pas à reproduire le risque de quelqu'un d'autre qui a eu du succès. Mm-hmm. Et le moment qui m'a le plus marqué dans son spectacle, c'est quand, donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, féministe, lesbienne, et si je dis lesbienne, c'est juste parce que c'est un de ses sujets, un de ses thèmes. Sinon, c'est un peu bizarre de définir un genre comme ça, mais... Et elle raconte un peu sa vie difficile, qu'elle pense peut-être abandonner le stand-up. Donc, une phrase qui est très jolie et qui est reprise par à peu près tout le monde. J'ai décidé d'arrêter de faire de l'autodérision parce que c'était pas de l'autodérision, c'était de l'auto-humiliation. Comme si je me donnais pas le droit de parler à moins de me rabaisser moi-même. Et tu fais, holy shit! Ouais. C'est une réflexion qui est super intéressante. Je crois qu'il s'applique pas à tout le monde, mais qui pourrait. Enfin bref, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Puis elle raconte une anecdote où elle a failli se faire péter la gueule, en gros. Et elle parle beaucoup de comédie, des techniques de comédie. Elle joue très bien avec le public en disant « Ok, là, vous êtes mal à l'aise, mais c'est pas grave parce que vous attendez telle phrase que je peux vous dire ou pas vous dire. » Et elle a un contrôle absolument merveilleux de son art et du public. Et à la fin, elle commence à s'énerver un peu en disant qu'en fait, elle a le droit de dire que sa vie, c'était de la merde parce que ça a vraiment été violent. Puis elle a toujours voulu underplay le fait que ça lui a fait mal, mais ça lui a fait super mal. Et elle reprend l'anecdote où elle a failli se faire casser la gueule. Et elle raconte qu'en fait, elle s'est fait casser la gueule, mais qu'elle peut pas le raconter parce que sinon, ça fait pas du bon stand-up. Et pendant toutes ces minutes-là, il y a aucune blague.
Mais ça, c'est, je trouve ça intéressant.
Mais qu'est-ce que c'est puissant comme discours, sa rage. Elle est sincère. C'est pas une rage de « Oh, les nouveaux paquets de chips, il y a juste 30% de chips pour 70% d'air. » Non, c'est une vraie rage. Et prendre le risque de s'aliéner du public pour vraiment juste... aller dans le vrai fond de tes tripes et pas juste pour faire rire, juste parce que toi, t'as envie de le dire à ce moment-là. J'ai trouvé ça absolument puissant et son special est super drôle de manière générale, mais elle joue avec plusieurs notes de façon très, très, très juste et je vois pas comment on pourrait ne pas aimer ça. À moins d'attendre juste des blagues, là, mais si tu t'attends un peu à ce que tu vas voir, si quelqu'un me dit qu'il l'a vu puis qu'il a pas aimé, je suis curieux. Honnêtement, on va tweeter l'épisode. Répondez sur Twitter. Je suis super curieux de discuter et d'échanger avec vous. Pas genre c'est impossible de pas l'aimer, mais juste moi, je vois pas comment on peut ne pas l'aimer. Et si ça a été votre cas, je serais vraiment curieux. Toi, j'imagine que t'as aimé aussi, Anthony?
Oui, moi j'ai adoré. Je trouve que tout ce que t'as dit est très juste, mais ce que je disais tout au début, c'était pas une critique, c'était juste que les articles se focussaient pas sur les bonnes choses, selon moi. Il y a des choses bien plus importantes dans son spectacle à discuter, notamment au fait qu'on arrive dans notre société à avoir des gens qui sont tellement énervés à ce point-là, parce qu'il leur arrive shit sur shit et qu'on vit dans une société un peu bizarre avec cette culture du viol qui est complètement dégueulasse, donc... Je trouve ça plus intéressant que de parler de révolution, de quoi que ce soit, alors que c'est clairement pas le cas et c'est clairement pas la discussion. Mais pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et elle a fait une interview chez Fallon, je sais pas si tu l'as vue.
J'ai juste vu le titre en disant comment est-ce que son spectacle était supposé de bomber pour lui permettre d'arrêter la comédie.
Ouais. Mais du coup, elle dit qu'elle va continuer parce que ce serait un peu con d'arrêter maintenant. Et dans un long portrait aussi dans le New York Times, elle dit qu'elle aimerait bien revenir et parler Louis C.K. si Louis C.K. revient sur scène, quoi.
Donc, mais c'est, j'ai trouvé ça tellement intéressant. Je trouve qu'elle a montré la différence entre être unique et original et jouer au fait d'être unique et original. Et que la différence entre un gimmick marketing et si c'est marketing, ben bien joué, parce que c'est. Mais c'était une vraie différence. On parle souvent de gens qu'on a plus ou moins aimés, qu'on a trouvé ci, ça, mais elle, elle a fait quelque chose qui est exactement les mêmes règles, entre guillemets, de base. Mais elle les a amenés à un autre niveau, je trouve. Et voilà. À la limite, si tu la trouves pas drôle, prends le discours puis nourris-toi avec ça.
Mais elle est comme ça depuis plusieurs années. Elle était dans une série qui s'appelle Please Like Me, qui est très très bien et qui est sur Netflix, en tout cas en Belgique et en France, je pense. Elle avait le personnage qui était plus ou moins pareil. Elle s'appelait déjà Anna dans la série, donc je pense pas que ce soit un truc marketing ou un coup comme ça pour faire parler d'elle.
Il y a quelque chose de beau avec Netflix aussi. Je disais, est-ce que toi, tu la connaissais déjà peut-être, Anna Gatsby?
Oui, mais justement, dans cette série-là.
OK, moi, je la connaissais absolument pas. Jamais entendu parler d'elle. Mais tant que tu as quelque chose de vraiment spécial, qui artistiquement a vraiment de la qualité, ça va circuler. Ça va... C'est ça qui fait que des fois, ça me fait chier de faire de la promo pour des trucs que je fais. Parce qu'il y a toujours le petit bruit dans le fond de ma tête qui me dit « si c'était vraiment génial ». T'aurais pas besoin d'insister.
Oui, mais c'est tellement rare. Enfin, je veux dire, c'est même aux gens qui les plus connus, tu sais pas prévoir ce genre de choses.
À fond, parce que son special est sorti vaguement en même temps que celui de Jim Jeffries. J'ai entendu parler par zéro personne de celui de Jim Jeffries. Moi, je l'ai trouvé très bon, très drôle. J'ai ri fort plusieurs fois. Mais il est pas spécial comme celui-là était spécial. Et vraiment, si vous ne l'avez pas vu, Anna Gatsby, c'est impossible de perdre son temps à le regarder. C'est ça aussi, je trouve, qui est beau.
Oui, c'est vrai.
Au pire, tu vas pas rire.
Non, mais la première fois, en fait, et j'en parlais avec un pote, c'est que la première fois, tu rigoles pas. En fait, moi, j'ai plus rigolé la deuxième fois, sachant ce qui allait arriver, en fait, en quelque sorte, ce qu'elle allait dire. Et du coup, ça, la construction du spectacle est encore plus logique la deuxième fois, parce qu'elle amène vraiment... petit à petit, ce qu'elle a vraiment envie de dire à la fin, son coup de gueule, je vais dire, de la fin, est plus logique quand tu connais ce qu'elle va dire.
Ah, mais c'est ça, il est super bien construit, et je veux dire, j'ai pas de nouvelle manière de dire que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bon. Et il y a des fois, tu vas trouver quelque chose de vraiment très bon, parce que t'es tellement habitué de regarder certaines choses que n'importe quoi qui se démarque le moindrement, ça fait du bien, c'est même, je pense, un effet pervers de devenir critique de quoi que ce soit. T'as une autoroute vers le fait de devenir le fait de devenir élitiste ou le fait de valoriser n'importe quoi qui fait juste casser une formule qui fonctionne bien parce que toi, on te gave avec. Mais celui-là, je trouve qu'il est satisfaisant si t'es très fan de comédie. Si tu commences la comédie, putain, check ça, c'est super important à regarder. Et si t'es juste un fan... casual de comédie, ben ça va être parfait comme soirée.
Et je trouve qu'il y a un autre truc dont on parle pas beaucoup sur Netflix, parce qu'on va pas faire 5 heures non plus sur Anna Gatsby, tout a été dit, mais ils ont commencé à faire des stand-up de 15 minutes maintenant, et ça s'appelle, j'ai oublié le nom, je pense, Comedy Lineup. Je sais pas si tu en as vu.
Comedy Lineup, ouais. Mais je sais pas si c'est celui-là ou un autre truc que j'ai regardé, ou de stand-up series ou de comedy stand-up, ou je sais pas comment il s'appelle. Moi, j'en ai vu un qui s'appelle Ian Carmel.
Ouais, c'est mon deuxième préféré dans la liste.
Et Ian Carmel, donc... je le suivais déjà sur Twitter, donc quand j'ai vu... Je sais pas pourquoi je le suivais sur Twitter. Quelqu'un que je connais a dû le retweeter, puis j'ai trouvé ça drôle, puis je l'ai suivi. Mais il fait la meilleure fin de spectacle que j'ai vu... Parce qu'il utilise un gimmick très connu, entre guillemets, facile, qui est « Ah, normalement, je devrais finir avec une joke vraiment forte pour terminer. » C'est ça un peu les codes du stand-up. Là, tu dis « OK, il va jouer avec les codes du stand-up. » Mais il dit « Weird, c'est bien aussi. » Parce que même si c'est pas génial, ça te marque. Puis prend l'exemple, j'ai trouvé ce gag exceptionnel. Il dit imagine si le Roi Lion, exactement le même film. Il y a rien qui change, frame pour frame, c'est le même film. Juste, il rajoute 2 secondes à la fin. Où pendant 2 secondes, le film est fini. Simba se retourne vers la caméra puis dit juste fuck me daddy. Et ça s'arrête là. C'est le même film. Est-ce que ça le rendrait meilleur? Non. Plus mémorable? Oh oui! Tu vois ça une fois et t'es enfant, c'est sûr que tu te réveilles genre une cold sweats 30 ans après, dans le milieu de ta nuit, tu te réveilles, tu sais comme « Fuck me, daddy! » C'est que « What the fuck? »
Non, non, il était très bon, mais j'ai trouvé, je pense que celui-là, tu l'as pas vu, un peu plus tard dans la saison, il y a un mec qui s'appelle Phil Wang, qui est pour moi le meilleur des 8 qui ont été diffusés dans cette première saison. Il est hyper drôle, okay. Il est moitié asiate et il est, comment dire, très cynique, enfin très presque prétentieux, et il avait des vannes qui m'ont fait vraiment rire, mais c'est vrai que la fin de Yann Carmel était assez exceptionnelle.
Puis après ça, il regarde le public, puis il s'en va. Donc, au lieu de juste dire fin weird, c'est bien aussi, puis de s'en aller, ce qui est déjà drôle, la manière dont il amène ce truc-là, c'est la différence entre amener une idée jusqu'au bout, avoir juste une bonne idée, puis tu fais comme « Ah, amusant !» Et rire fort en disant « Ah, fucking well played, sir. »
Phil Wang, il a une vanne où il dit « Je suis à un âge où tous mes amis ont un podcast. » Mais c'est une bonne idée, je trouve, des 15 minutes.
À fond. Et là, il va y avoir des demi-heures aussi qui vont arriver. À Montréal, ils en ont filmé quelques-unes pendant le festival. Et il y a des Français qui arrivent et des Québécois que je connais. De mémoire, c'est Louis-José Houd, François Bellefeuille, Adib Al-Khalidé et Catherine Levac. Et c'est 4 usines. Louis-José Houd, il remplit des stades de hockey sur glace, ouais, c'est sans problème.
Ah oui, mais je vois, il a un grand front comme ça, non?
Il a un grand front. Je sais pas. Il parle assez vite. Il est déjà venu à Paris au point virgule pendant quelques temps. Il joue dans des films beaucoup. Donc, il s'appelle De Père en flic. Non, le deuxième est sorti l'été passé ou l'été avant. Qui est donc un gros succès. C'est vrai, c'est une machine. François Bellefeuille, c'est peut-être ce qui se fait de plus drôle au Québec en ce moment. Le gars a des jokes dans son premier spectacle. Il y avait un gars, c'est un ancien vétérinaire qui est devenu humoriste. Et tu sais ce qu'on dit, hein? Vétérinaire un jour, farceur demain. Ça, c'est... et il y a des espèces de grosses lunettes, des cheveux en bataille, et il est toujours un peu énervé. Puis une de ses blagues, c'est juste... Ouais, on me dit souvent que je crie beaucoup, et c'est sûr que c'est pas pratique dans toutes les situations. Comme par exemple, si j'essaie de draguer une fille, j'ai l'air un peu intense. On me dit « François, arrête de crier autant! » Et moi je dis « C'est pas de ma faute si le juge veut pas que je m'approche d'elle à moins de 10 mètres! » Et parfois, c'est juste une question d'angle. Il va y avoir des choses où... Juste la manière dont il va rentrer dans un sujet. Par exemple, au Québec, à un moment donné, c'est devenu super fort la mode, les vins et fromages, et je sais pas, c'est arrivé vite, puis c'est reparti un peu vite, mais lui, il disait, j'aime pas trop ça, les vins et fromages, parce qu'il doit toujours aller en choisir un, et je sais jamais quel le prendre, ils ont l'air tout bizarres pour moi. Exemple, l'autre jour, j'ai voulu acheter du cottage cheese, mais j'ai ouvert ça, et je me suis dit, c'est-tu trop demandé, quand t'achètes un fromage, d'être le premier à le digérer? Et j'ai probablement complètement niqué son gag, mais voilà, il y a des choses comme ça de très... ça a de la saveur beaucoup, et c'est des confirmés. Louis-José Houd, c'est une des plus grandes stars, Bellefeuille, pareil. Catherine Levac, c'est peut-être celle qui a le plus explosé dans les 2-3 dernières années. Et Adib Al-Khalidé, il est déjà à son deuxième show et il fonctionne très fort. Et il y a des Français aussi qui vont avoir ça.
Il y a Shirley Soignon.
Shirley Soignon, Jason Brokers, que j'ai jamais vu sur scène, Tania Dutel, et il y en a un quatrième. Non, il était juste 3. Je me souviens plus. Enfin bref.
Donc, il y en a 4, mais ils en avaient annoncé que 2, et je connais que les 2 premiers. Je sais pas les autres, j'ai pas suivi.
Mais c'est. Enfin bref, tout ça est super. Et comme tu disais, les 15 minutes, c'est bien aussi, parce que ça permet d'ouvrir encore plus large. Quoi.
15 minutes, c'est cool parce que ça permet de... C'est comme un petit snack, quoi. Donc, ça va très vite. C'est très agréable à regarder. 30 minutes,
excuse-moi, excuse-moi. 15 minutes, c'est très cool. C'est comme un petit snack. C'est très agréable à regarder.
Très court. Oui, ben oui, c'est vrai. Ça se...
Voilà.
C'est un petit paquet de cacahuètes, quoi.
C'est un nom de sextape, quoi. C'est très agréable à regarder.
Je dois dire la vérité, c'est que comme tu m'as coupé et qu'en vrai, c'est CNW Podcast et c'est la millième fois qu'on coupe, hein? J'ai failli puncher mon ordinateur en me disant « Quoi maintenant ?»
Ouais, au niveau de la technique, ça c'est pas encore... voilà, on est à la marée basse du talent de la technique, si... voilà. On n'est pas encore au... Voilà. Il faut pas remettre de la crème anti-talent pour se protéger des rayons du génie. Pour l'instant, on est encore protégé.
C'est un truc aussi que Flaubert nous a piqué, ça. Hein. Le côté « Ah là là, j'arrive pas à enregistrer mes podcasts. » Sauf que lui, il fait venir des gens chez lui. Et à mon avis, il n'a pas d'amis. Ah. Donc comme ça, il dit « Ah ben tant pis, on n'a pas su enregistrer. Bon, ben on va tous regarder Danse avec les stars, tu vois. »
Oui, mais connaissant Flaubert, attendez, j'ai découvert un petit réalisateur, il a fait un chouette film, ça s'appelle « Et ». Et? T'es sûr c'est pas E.T.? Non, c'est Et. Comme, pourquoi? Ben, c'est une histoire et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. D'après moi, c'est une référence à ce truc-là. C'est putain, Flaubert passe moins de temps chez le coiffeur, plus de temps à l'école, quoi. Tu sais, j'ai réécouté le début du podcast qu'on a fait chez eux. Je ne peux pas croire qu'on a été perdre notre temps à remplir une cruche percée, quoi. Parce que honnêtement, tout le long, on donne et on donne et on donne. Et l'autre invité du podcast, Adrien Méniel, qui lui, honnêtement, fait son possible parce que d'un côté, il veut pas trahir sa nation, donc il se doit d'être un peu solidaire envers Flaubert. Mais d'un autre côté, tu le vois qu'il se dit « Putain, tu salis le nom d'un de nos rares génies. » Flaubert. Commence par apprendre genre les 26 lettres de l'alphabet au lieu de te débrouiller avec 22. On verra après, c'était... Flaubert, est-ce qu'on joue au Scrabble? J'ai amené mes dés. Ça fait putain, Flaubert, quoi. C'est le seul gars qui veut jouer au Scrabble en braille parce que c'est plus facile. 2.3.2 points. Putain.
Voilà, tout est dit, je pense.
Et tu sais, à un moment donné, tu dis où va s'arrêter ma générosité? Parce que d'un côté, bon, on leur a donné un second souffle. Oh, comment ils appellent ça déjà? Le Floodcast? Ouais. Déjà, ça se prononce Flood, F-L-O-O-D. Mais bon, tant pis. Mais en plus, je veux dire, le gars, il vivotait un peu comme réalisateur, on est d'accord. Oh, je suis réalisateur. Non, t'as une caméra puis t'as un index puis t'appuies sur record. Tu vois, calme-toi un peu. Moi, j'ai une raquette de tennis. Je dis pas que je suis Roger Federer. Fait, calme-toi un peu avec les trucs. Il m'appelle un jour en disant « Dan, je voudrais faire une vidéo, mais j'ai pas d'idée. Tout ce à quoi je pense, c'est nul. » Je fais « Au moins, t'as un bon jugement. Tu vois, bâti sur tes acquis. » Et il me dit « Est-ce qu'on ferait pas un truc? » Je fais « Garde. » Moi, j'ai pensé à quelque chose. Il faudrait que tu fasses un collectif, que tu fasses partie d'un collectif. Parce que tout seul, je pense que ça va être difficile pour toi. Mais et pense à t'associer à, je sais pas, trois personnes qui ont du talent, qui pourraient faire des vidéos ensemble. Hein. Trouver un petit ton d'animal mignon, tu vois. Ça a toujours bien marché, les animaux mignons. Donc, il faut, OK, on va s'appeler le suricate. Je sais, bon, pourquoi pas, tu vois. Mais j'ai pensé plus gros. J'ai trouvé un truc rigolo, tu vois, genre, on est très dans la célébration du vintage, donc c'est fait un truc genre moustache, mais tu essaies d'y mettre un peu plus de couleur, et ce gros con, il fait oh, comme une moustache dorée, je sais putain, non, de la couleur. Oh, il m'a fatigué. Finalement, ils l'ont fait, leur truc de golden moustache. Ça, honnêtement, ça n'allait nulle part à une vitesse, mon ami, c'était... Il avait l'air, sans vouloir être méchant, là, des gens qui sont en chaise roulante électrique, une journée de panne de courant. Tu vois ce que je veux dire? C'est la volonté était là, le talent, non. Et ils te mettent plus mal à l'aise je préfère ne pas regarder que pitié, je vais leur donner un coup de main. Mais moi, ils m'appellent. Ils disent, bon, je voudrais faire une vidéo marrant. Je fais, c'est bien, changer de style de temps en temps. Et il dit, j'ai juste, là, il y avait une très bonne comédienne, Justine Lepotier, mais j'ose pas lui montrer mon script. Je dis, pourquoi? Il dit, ben, je peux te le montrer. Il m'envoie le script. Une catastrophe. Une catastrophe. À la base, tu veux que je te raconte ce que c'était?
Oui, bien sûr.
C'était l'histoire d'un petit extraterrestre qui voyageait en 1985 pour aller en vacances avec sa meuf, mais il y avait un requin dans la, tu vois, dans l'eau. Mais genre, il se laissait pas abattre, il se peignait la face en bleu, puis il criait « Liberté !» sur un cheval à côté d'un personnage qui est une espèce de gros ours, puis après, il partait sur une étoile noire. Tu vois, il se fait « Putain !» Flo Flo, quoi. On l'appelait Flo Flo entre nous. En fait, peu de gens le savent, mais c'est un Ukrainien à la base. Son vrai nom, c'est Igor Floberinovich. Et voilà, je fais garde. Je vais te refaire. Déjà, sois plus modeste. Hein. Un plan. Allez. Une cam. Trois valeurs de plan maximum. On va tout miser sur tes comédiens. Parce que bon, c'est pas ton talent, c'est pas le texte. Et laisse-les improviser. Donc, j'ai fait un petit truc comme ça. En fait, je me rends compte, je suis en train de faire du très mauvais Serge Lhobito et je viens de me faire honte moi-même parce que je le trouve tellement bon, Jonathan Cohen, que j'ai l'impression qu'il me regarde en disant « c'est pas comme ça qu'on fait
». Moi, je me suis dit « j'ai lâché la bête, là. Je t'ai amené sur un terrain glissant et…
» D'ailleurs, je t'ai amené sur un terrain glissant, aussi le nom d'une sextape.
Ah ouais, mais elle était sale, celle-là.
Tu sais que j'ai… Bon, ça, il y a peu de gens qui le savent, mais…
Attention.
Je te fais une mini parenthèse. Oh. Je sais pas si tu savais que moi, ma famille a fait fortune dans la confection d'ustensiles de cuisine. C'est couvert gagnant. Nous gagnons à être découverts. C'était le slogan. Enfin, bon, c'était une pub un peu. C'était un peu classique. Et donc, à un très très jeune âge, je me suis mis à manipuler la cuillère avec assez de dextérité, je dirais. Et je suis venu. Je suis devenu ce qu'on appelle un. Ça s'appelle du chant couvert. Le chant couvert, c'est quand tu mélanges la chanson puis les percussions avec des couverts. C'est un peu comme de la folk pour les fans d'ustensiles, en gros. Et ma première chanson connue, ça s'appelait Je t'amène sur un terrain glissant. Glisse, glisse jusqu'au fond du néant. Je t'amène sur un terrain glissant. Faisons un enfant dedans. Je sais pas si tu te souviens d'avoir entendu ça. Il y a un remix assez célèbre par Avicii, mais il allait le sortir au moment où il dit, garde, tu sais quoi, je prends cette dernière pilule, puis je le sors. D'ailleurs, dans ses mémoires, c'est comme ça que sa biographie se termine. Je sais pas si tu sais, ils ont retrouvé les enregistrements. À la fin des enregistrements de Nixon, il restait du tape, ils l'ont envoyé à Avicii. Donc c'est un peu comme ça que ça a commencé, les enregistrements, mais... Bref, allez voir Anna Gatsby. C'est vraiment très bon.
Je sais pas. Ça doit probablement mettre la chaleur. Moi, je suis dans mon bureau. Il fait 3000 degrés. Ça me monte à la tête.
Ouais. Je dirais que c'est peut-être pas la chaleur. J'ai tendance à être très dur avec moi-même. Je vais pas m'encenser quand c'est pas le moment. Je suis mon critique le plus violent. Et là, je te dirais que je me donne 8 sur 10 maximum.
C'était pas mal. J'avoue que c'était... Je pense que la chanson « Les couverts gagnants », tu l'avais déjà préparée. Mais le reste, c'était pas mal.
En fait, je sais pas si c'est plus triste d'avoir pensé ça en l'ayant improvisé ou de l'avoir préparé. En fait, tu sais ce que je trouve le plus triste? C'est qu'on soit ensemble depuis quoi, quasi 5 ans, et tu me connaisses aussi mal. Tu t'imagines vraiment qu'hier, j'ai pris une feuille en disant « Ok, quelle punchline weird, je peux sortir. » Et je me promène dans la maison à la recherche d'inspiration. Je fais une mouche, t'as une petite mouche. Je me suis fait moucher, non. Non, quel jeu de mots je peux faire avec mouche. La mouche louche, quand tu la touches. Elle se mouche dans ta couche. Non, ça marche pas. Parce que j'ai quand même des standards de qualité. D'un coup, je vois une cuillère et je fais « Bingo! »
Non, je t'imagine, et en fait, t'as vraiment des notes, et tu regardes un peu en coin, comme ça, genre, personne t'a capté.
Genre, j'ai un copion sur le revers de mon short, et de temps en temps, je joue à plier et déplier mon short autour de ma cuisse. Et il y a juste des notes, genre, couvert, chante, fais un jingle.
Bon, comme il n'y aura pas d'épisode avant 2 semaines, arrêtez d'essayer de demander de faire des épisodes toutes les semaines pendant l'été. Ça n'arrivera pas. On passerait pas vite sur... Il y a le show de Sacha Baron Cohen et il y a eu le roast de Bruce Willis. Je ne sais pas si tu l'as vu.
Yes. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est généreux et on donne et on donne et on donne avant que le Patreon arrive? Ou est-ce qu'on fait ça en 2 petits épisodes?
Je sens que le 2 petits épisodes... Ça ne se fera pas. Donc, on peut juste vite passer dessus. Je te connais, je me connais. On va reporter toutes les semaines.
Non, mais on peut l'enregistrer là. Ou est-ce qu'on... Ou non, toi, je te sens dans la générosité.
Moi, je me sens qu'on peut faire vite sur les deux.
Parfait.
Faire, un petit 10 minutes, quoi.
C'est ça. C'est le show de Sacha Baron Cohen, 8 sur 10. Le Rose, 4 sur 10. Merci beaucoup. C'était le... Sacha Baron Cohen, en fait, il y a quelque chose qui m'embête à propos de Sacha Baron Cohen, et c'est que j'aimerais pas être Sacha Baron Cohen parce que ça fait tellement longtemps que c'est un génie, un vrai lui, qu'il peut pas en faire plus que ce qu'il fait, mais ça a pas du tout l'impact que ça avait avant, c'est pas de sa faute, puis il peut rien faire. Il a quand même réussi, pour ceux qui voient pas c'est quoi le show, en gros. Comme d'habitude, personnage, caméra cachée, non, mais c'est un peu des setups pour le genre de prank. Mais il va toujours essayer de faire ressortir le pu de l'Amérique, disons ça comme ça.
Ouais, c'est vrai.
C'est le Dr. Pimple Popper des mentalités américaines.
2e épisode d'affilée où on en parle. Et ok, on va le faire à chaque épisode.
Merci. Je vois que tu commences à... En fait, j'ai l'impression que... On était dans la ligue de la conversation où j'arrivais à te mettre des paniers de 3 points depuis vraiment longtemps. Et là, tu as analysé en vidéo toutes mes tactiques et tu me contres. Toi, tu le sais là, que j'allais faire une feinte à gauche, revenir vers la droite. Tu étais déjà à droite.
Eh ouais, j'ai pas l'air comme ça. J'ai l'air un peu dans le con, on peut le dire.
Mais c'est pas ta biographie, ça. J'étais déjà à droite où t'es un costard. T'as 2 doigts sur ton visage. Et puis dans les mains, t'as une poignée de dollars. Et dans l'autre main, t'as une poignée de courage.
Poignée de courage.
Et tu dis...
Non mais...
entre l'argent, entre la réussite et le courage, il y a l'homme.
Ouais, bien sûr. Non mais pour revenir au show de Sacha Baron Cohen, les coulisses sont plus intéressantes que le show, en fait, je trouve. Tu lis des interviews, notamment Vulture, qui chaque semaine publie un peu un top de qui s'est le plus humilié dans l'épisode. Et il raconte il contacte généralement les gens. Genre, par exemple, dans le premier épisode, il y a une meuf qui tient une galerie d'art. Ils l'ont interviewée. Il y a la meuf de la télé-réalité, là, celle qui avait fait le Bachelor, qui a été interviewée aussi. Et les coulisses sont des fois un peu dérangeantes, parce que par exemple, la meuf du Bachelor, tu vois la séquence hein, où elle dit qu'il faut armer les enfants en Afrique.
Oui, oui.
Mais elle a été littéralement presque séquestrée, quoi. Donc en fait, on lui avait enlevé son téléphone, on avait dit à son manager, barre-toi. Et il voulait pas lui répondre quand elle disait, mais qu'est-ce qu'on fout là? Quand est-ce que je peux partir? Et comme lui jouait un personnage italien, toutes les équipes disaient, no speak English, no speak English. Ce qui est drôle, mais quand même un peu flippante, parce que la pauvre, elle n'est pas très maligne, mais je veux dire, quand même, ça se fait pas, quoi. C'est ouais. Quand même un peu bizarre.
Moi, je suis vraiment moins fan quand on va se moquer des gens de télé-réalité comme ça. Par contre, quand il prend des élus et qu'il leur fait faire des énormités...
Mais il leur fait pas faire grand-chose, hein. Si tu réfléchis bien, en revoyant, tu dis, ils font tout eux-mêmes, en fait.
Il y a beaucoup de choses qu'ils font eux-mêmes, sauf le fameux... gouverneur qui essaie de désarmer un terroriste en le menaçant de le toucher avec son cul pour le rendre homosexuel et qui crie genre USA, USA en reculant avec tout trou de balle derrière, hein, je sais pas comment le dire autrement. Il recule comme un camion de gravier un jour de remplissage, quoi. J'ai que des métaphores sur la construction de maisons maintenant.
Ouais, je vois ça.
C'est la plage de la construction de maisons. Donc, oui, donc ça, c'est vrai. Pour l'autre truc, je suis d'accord avec toi. Ils font beaucoup jusqu'à ce que des personnes décident de se barrer ou tu filmes le malaise. Mais, ouais. Mais ça demeure pas moins flippant. Si c'est la première chose que tu vois de ta vie, parce qu'il faut aussi dire qu'il plaît beaucoup, je sais pas si c'est encore le cas, mais il plaisait beaucoup aux jeunes, en tout cas. Il y en a pour qui c'est peut-être le premier contact avec le surréalisme de la réalité.
Pour moi, ça rejoint des shows comme ce que fait John Oliver ou ce que fait Samantha Bee, c'est-à-dire que ça prêche des convertis et on est tous d'accord. Et j'en ai déjà parlé, mais j'ai l'impression qu'on se regarde en se disant hey, « on avait quand même raison, ils sont bien racistes, ces Américains, tu vois ?»
Ça, mais ça, c'est un combat que j'ai depuis longtemps. Et c'est pas, genre, pour faire un truc vraiment sérieux, deux secondes, c'est quelque chose sur lequel je fais beaucoup de recherches et j'essaie de lire beaucoup de livres sur le sujet. L'art de convaincre, parce que la radicalisation des positions fait en sorte que t'as l'impression que t'as plein de petites cellules partout et que ta manière de preacher, c'est de crier fort dans ta cellule. Et tu dis, ouais, c'est inutile, c'est pas comme ça que tu vas réussir. Et comment tu fais pour aller dire à quelqu'un d'autre, hey, viens voir ici, tu vas peut-être te faire une nouvelle opinion, plutôt que quel trou du cul de penser ça, tu vois? Donc se braquer les uns contre les autres me semble pas hyper utile. Et le shock value, c'est bien quand tout est smooth, quand tout est doux, quand t'es dans une période où tu peux rien dire. Mais c'est vrai que ça fait peut-être 20 ans, 25 ans qu'on crie maintenant. C'est peut-être pas comme ça que les messages vont circuler le plus.
Mais clairement pas.
Crier par-dessus du bruit.
Encore moins à cette période. Tu vois la scène, je pense que c'est dans le troisième épisode où ou peut-être dans le deuxième, peu importe. Il va voir tous les Américains et il leur dit qu'on va construire une mosquée dans leur ville. Mais évidemment, ils sont tous un peu racistes et ils disent « Oh là là, vous avez bien fait de nous prendre nos armes parce que sinon on t'aurait tiré dessus. » Mais tu lis les coulisses. Bon, déjà, la scène, ok, c'est, on sait, ils sont un peu racistes, même bah, parce qu'ils ne savent pas, tout simplement. Mais on les a fait venir là en leur donnant de l'argent. Ils ne pouvaient pas avoir de téléphone non plus. Et en sortant, il y a eu des interviews quand ça a été tourné au mois de janvier, où les gars savaient très bien ce qui se passait, en fait. Ils diront encore essayer de nous faire passer pour des cons et des racistes, alors qu'en fait, on est juste en train de nous raconter des... qu'on va avoir la plus grande mosquée du monde ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, donc...
Il y a un gros danger. Si tu fais ça dans des buts d'éducation, il y a une chose qui est jamais une bonne stratégie. Humilie jamais les gens. Peu importe la circonstance, peu importe... Il n'y a rien de bon qui va résulter de l'humiliation, à part peut-être un cheap laugh de 3 secondes. Mais
du coup, les contres sont contre, encore plus qu'avant. Et nous, parce que je pense qu'on est un peu plus du côté de Sacha Baron Cohen quand même, tu étais un peu content de toi parce que tu te dis, ah, regarde. C'est pas... Après, je n'ai pas l'air comme ça, mais j'adore le show. Je regarde ça tous les lundis chez nous. Ça me fait rire, je trouve ça bien fait, en fait, c'est bien, c'est malin, mine de rien. C'est, je sais pas, c'est sournois, quoi. Mais il faut le savoir, c'est tout. Mais ça ne fera pas avancer le débat, ça va pas changer les mentalités.
Et ça, c'est un débat qu'on a déjà eu avec les émissions comme Striptease et tout ça, Nous rendra pas le Congo.
Oui.
Qui, parfois, je trouve, sont du génie, quand ça te montrait juste qui était un homme politique, par exemple. Merveilleux. Mais, encore une fois, humilier les gens que ce soit fait de manière, genre, parce que t'es un baraki ou un beauf, ou parce que t'es un intellectuel, ça demeure humilier des gens, et je...
Et alors, il y a un autre truc qui...
Il faut que tu réfléchisses plus. Il faut que tu réfléchisses plus. Si tu te dis, putain, ils sont encore racistes, il y a plein de gens que ça dérange pas, il y a plein de gens qui le savent pas, comment est-ce qu'on va faire? On irait peut-être humilier des gens. Pense encore. Donne-toi une journée de plus puis réfléchis encore.
Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un autre problème aussi avec le show, c'est qu'il y a Kurt Metzger qui est dans le pool des auteurs, et c'est un mec qui est connu pour ses agressions sexuelles, pour défendre d'autres agresseurs. C'est un auteur de chez Inside Amy Schumer à l'époque, et ce type est toujours engagé et il est toujours là, et je comprends pas. Et il y a une autre polémique aussi, le fait qu'il y a que des mecs qui écrivent sur le show. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on regarde, en fait. Moi, je trouve quand même ça drôle, et je regarde toutes les semaines, mais c'est pas non plus... Comme Anna Gatsby n'est pas une révolution, c'est pas non plus ça qui va faire avancer la société, le truc de Sacha Baron Cohen, c'est juste... Ça sera très vite oublié, et c'est juste parfait pour l'été, en fait.
Par rapport à Anna Gatsby, il faudrait peut-être poser la question, par contre, je ne sais pas si dans l'interview avec Fallon, ils y en ont parlé. Est-ce qu'on peut être une femme et drôle? Toi, à un moment donné, on tourne autour du pot, mais je pense qu'il faut... c'est un gag que je suis en train d'écrire pour le Québec. Un des trucs que je dis, c'est quand je suis revenu, j'ai voulu me plonger dans la culture. Ça fait 13-14 ans que je suis pas là. Quand je suis parti, il y avait ça. Maintenant, il est là. Et c'est un truc, je sais pas si je vais le faire, parce que tu viens d'arriver, tu te présentes, les gens te connaissent pas, mais ça me fait rire de dire... J'ai vu, moi, par exemple, il y a une humoriste que j'aime beaucoup qui s'appelle Corinne Côté, je la trouve super drôle. Et j'avais juste envie de dire, je l'ai trouvé tellement drôle au début, je pensais que c'était un mec. Et je sais pas si ça vaut la peine pour un bête gag de risquer d'avoir autant de gens qui te détestent.
T'as pas grand-chose à perdre.
Non, mais quand t'as rien, hein? Comme quand on a commencé à construire Comedy News Weekly. D'ailleurs, pour ceux qui aiment bien l'histoire derrière Comedy News Weekly, il y a le livre Behind the Building qui va arriver. Et on est apparemment invité par Tony Robbins pour faire une conférence dans un de ses séminaires. Et j'attends une confirmation. Drucker ou Oprah? Il était en train de négocier. D'ailleurs, c'était assez drôle de les entendre négocier en franglais. Mais voilà, pour raconter l'histoire, parce qu'on va bientôt arriver à une date historique de la création.
C'est vrai.
Quand on a commencé dans le sous-sol, avant de déménager à la Silicon Valley, et qu'on a créé notre premier podcast, on l'avait fait dans le garage, si ma mémoire est bonne. Non, on l'avait construit avec quelques retailles.
C'était à l'époque un side project, on peut le dire, parce qu'on était à full time sur WhatsApp.
Ouais.
Et c'était.
Entièrement d'accord avec toi. Et bon, on vendait quelques conseils à Steve Jobs aussi. D'ailleurs, à la base, c'était supposé s'appeler. Peu de gens le connaissent, mais c'était supposé s'appeler Apple News Weekly. Et c'était supposé être qu'on est des aficionados du fruit rouge, je pense qu'on peut le dire, Anthony. Et oui. C'était supposé être c'était des battles. Mettons, cette semaine, Macintosh contre Pink Lady. La semaine prochaine, est-ce que la Granny Smith fait son retour? Tu sais, quelle pomme avec quel chapeau? Ça, c'était l'épisode avec Follon. Avec Magritte, pardon. Et voilà, exactement. Est-ce que la pomme est vraiment tombée sur la tête de Newton ou est-ce que, tu vois, il s'est servi de la pomme? C'est tous les moments où on avait usurpé la pomme. D'ailleurs, ça s'appelait usurpomme et c'était supposé être un... Mais ça faisait tellement polémique que l'avocat a dit, tu sais quoi, parlez de comédie à la place, puis bon...
The rest is l'histoire, history. Bon... Dernier petit truc, le roast de Bruce Willis, c'était à la limite de la catastrophe. Je ne sais pas si tu l'as vu.
Non, je voulais le regarder, puis tu m'as dit, c'est super nul, regarde-le. Je vais pas te mentir, je t'aime beaucoup, mais j'ai choisi la solution égoïste de laissons Anthony m'en parler 5 minutes.
Parce
que j'adore les roasts, ça va me faire mal.
C'est comme Eliza Schlesinger, je me sacrifie, ne regardez pas cette merde, c'est...
Alors qu'elle a beaucoup de talent.
Oui, mais c'est comme si un enterrement de vie de jeune fille faisait du stand-up, que c'était personnifié. Voilà.
C'est un mélange entre un enterrement de vie de jeune fille et une tournée de tequila pendant Despacito.
Voilà. Mais non, le roast, en fait, ce qui s'est passé et ce qui se passe depuis James Franco, c'est qu'il y a eu James Franco, Rob Lowe et maintenant Bruce Willis, c'est qu'ils invitent de plus en plus de stars. Donc c'est cool quant à la liste. Ici il y avait par exemple Ed Norton, il y avait Kevin Pollak, il y avait Cybill Shepard, il y avait Martha Stewart, mais c'est pas des humoristes. Il y a toujours eu ce truc de il y a un mélange d'humoristes et de grands noms, on va dire, mais ici le ratio il était complètement fucké parce qu'il y avait Jeff Ross en vrai humoriste, comment elle s'appelle,
Natasha Leggero,
non même pas, Nikki Glaser, et un mec qui s'appelait Dom, je ne sais pas quoi, qui est un vieil humoriste italien, qui était d'ailleurs très drôle. Mais voilà, c'était les seuls, quoi. Et du coup, quand Nikki Glaser a commencé, celle qui a ouvert le bal, c'était drôle parce que c'était très violent, presque. Et pour le reste, c'était des espèces de mini-sketch. Et Ed Norton a fait un sketch hyper long pour arriver à pas grand-chose. Et alors, l'autre truc qui m'a dérangé, c'est qu'ils ne se vannaient pas tous. Donc, une fois qu'ils étaient au podium... Normalement, t'es censé faire une vanne sur un peu... telle personne est là, telle personne est là. Et puis, hop, on s'intéresse à Bruce Willis. Mais ils allaient quasiment tous directement sur Bruce Willis. Donc en fait, c'est pas très intéressant, tu vois. Donc ça tournait un peu en rond. On a compris, sa femme a baisé Ashton Kutcher et il fait des films de merde et il est chauve et un peu républicain sur les bords. Voilà, ça tournait très vite en rond. Et je me suis dit, en regardant ça, je me suis dit, en fait, tous les bons sont soit trop connus, soit morts. C'est-à-dire que des Greg Giraldo, des Patrice O'Neill, mais ils sont plus là. Des Nikki Glaser, bon, elle est encore là, et tant mieux. Des Anthony Jeselnik, des Amy Schumer qui ont débuté quasiment avec ça, bah, ils sont trop connus. Donc en fait, ou alors il y en a qu'on n'invite même plus, tu vois, des Lisa Lampanelli, moi j'adorais parce qu'elle était vraiment violente, mais elle a plus la cote, donc en fait on ne l'invite pas.
Leggero, moi je sais que toi t'aimes moyen, moi j'ai adoré.
Mais Leggero, le show qu'elle a fait avec son mari. Avec Moshi Kasher, ils ont fait du honeymoon stand-up, je sais pas quoi, honeymoon tour, qui est sur Netflix, c'était très drôle.
Ok, bon ben tant mieux, mais... Et en plus, le, je sais pas, c'est... le roast, le point, c'est que ça soit une joke à la... Une joke, quoi.
Il y avait une bonne vanne. C'est celle qui m'a fait le plus rire. C'était Jeff Ross, évidemment. Il y avait dans les invités, il y avait Lil Rel, donc, qui est le mec qui jouait dans Carmichael Show et qui après était dans Get Out. Donc c'est le mec de la TSC qui est dans Get Out, qui est tout le temps au téléphone avec lui. Et le trois quarts des vannes qui étaient sur lui, c'était genre on le connaît pas en gros. Sauf Jeff Ross qui a dit ta carrière décolle, tu vas faire une voix dans le film Angry Birds 2, qui est vrai. Et il lui a dit tu vas jouer qui? Jim Crow. Vous irez voir Jim Crow si vous connaissez pas sur Wikipédia parce que c'est assez fascinant et assez fou. Et bon, il y a le jeu de mots avec le corbeau. J'ai trouvé cette vanne absolument dingue, mais voilà, c'était peut-être un des rares highlights de la soirée, quoi.
En gros, les meilleures vannes du Rose de Bruce Willis, c'est Galifianakis qui les a faites dans Between Two Ferns.
Mais oui, il est plus direct dans ce truc-là, en fait.
C'est tellement drôle dans Between Two Ferns, les quatre gags, les quatre minutes de gags. Il y en a un, c'est « You got three children with Demi Moore. Who's your favorite? Ashton? Do you know that some actors turn down roles? When you were making the whole 10 yards, at one point, were you afraid it would be too good?
» Mais voilà, mais là, c'était variation sur le même thème, quoi. Il n'y a pas mille trucs à dire. Et aussi, en fait, en vrai, c'est que Bruce Willis, il y a quand même très peu de gens qui ne l'aiment pas. Tu comprends?
Ouais.
C'est comme James Franco. Il n'y a pas assez... Soit,
bon,
y
bah, ça va changer, James pas, Franco, mais...
Oui, c'est clair. Mais je veux dire, au pire, on n'adhère pas à tous ces projets pseudo-artistiques mes couilles. Mais voilà, il y avait des vannes à faire, quoi. Là, Bruce Willis, bon, ouais, j'ai pas trop compris. Par contre, ce qui était cool, et j'arrête avec ça après, c'est que Rose Battle a repris juste après, et là, on a vu un autre niveau. Surtout que maintenant, c'est plus vraiment une compétition, c'est même des gens connus, en fait, qui viennent se roaster. Donc, ça a commencé avec Todd Barry, qui était encore exceptionnel. Il y avait Sarah Tiana, il y a plein de gens. Donc,
Todd Barry, il est tellement sous-évalué.
Oh putain, mais c'est un génie, quoi.
Encore une fois, je le dis, je crois que je le dis à tous les trois podcasts, mais sur Twitter, Todd Barry, Brandon Walsh, vous suivez les deux.
C'était eux deux, la première battle.
En fait, putain, ils sont dit, bien, faut que j'aille le voir.
Ils sont tellement drôles sur Twitter qu'ils les ont fait se battre, s'affronter sur la scène, quoi.
Et c'était bien.
C'était excellent. Et après, il y a eu Sarah Tiana. Sarah Tiana, elle a failli gagner il y a une saison ou deux, et elle est très très drôle. Contre un pote à elle qui est catcheur et qui s'appelle, enfin j'ai oublié son nom, mais qui est un vrai catcheur. Okay. Et bien en fait il s'en est bien sorti et c'était très drôle aussi.
Et tu te souviens pas du tout, il ressemblait à quoi? Peut-être je sais de avec mon passé de catcheur, avec mes 4 ans dans la WWE, je vais peut-être me souvenir d'un ancien collègue.
Attends, parce que je sais qu'il y a un podcast Rose Battle, donc je peux te le dire. Attends,
c'est du live, mesdames, messieurs, on envoie nos recherchistes sur le coup.
Dolph Ziggler, il s'appelle.
Comment?
Dolph Ziggler.
Ah oui? Ah oui, c'est un nom. Est-ce qu'il y a eu des blagues sur son nom? Genre Adolf Ziggler?
Non, il y avait d'autres trucs qui étaient très drôles. Et il y a un deuxième épisode de Rose Battle qui est exceptionnel. Il y a une meuf qui s'appelle Yamanika Sanders qui a tué, qui est une noire un peu ronde, même beaucoup ronde. Et elle était très très drôle. Et le jury, c'est Anthony Jeselnik et Nikki Glaser, donc ils sont là tout le temps. Et Nikki Glaser a une vanne parfaite. Elle lui a dit il n'y a que une Yamanika Saunders. Elle dit déjà parce que c'est un fucking stupid name. En plein milieu de compliments, elle a commencé à insulter la fille, mais en fait, elle était vraiment très très drôle. Et Rose Battle est 100 fois mieux que le Rose de Bruce Willis. Donc si j'étais vous, je partirais là-dessus.
Eh bien, rien ne va plus. Les jeux sont faits, Anthony. On retourne à la plage. Pareo pour tout le monde. Sex on the beach ou LOL on the beach. À vos maillots, ça va splasher sur la vague. Ça farte. J'ai décidé que je devenais animateur de soirée de plage. On mouille le maillot, mais pas que. On se mouille le gosier aussi. Les luettes en folie, tout le monde. On danse, on nage, on se meut. On s'émeut, on se touche et on se veut. LOL en folie, toute la semaine, à la plage de Saint-Joseph.
Ah, attends, juste avant qu'on termine, parce que je sens qu'on va avoir des tweets. Il y a plein de gens qui nous ont dit, vous pouvez expliquer ce qui se passe entre Mike Ward et Kader Aoun.
Oh.
Je pense que Kader Aoun a volé des vannes, tout le monde le sait. Mike Ward trouve ça un peu...
Mike Ward, c'est peut-être... C'est le Elliot Ness de la comédie. Il va toujours défendre ce en quoi il croit, et pour lui, le crime suprême, c'est le vol de blagues. Et Mike Ward est capable, dans un festival où il est invité, faire des vidéos pour ses réseaux sociaux en disant que c'est tout de la merde. Et quand je dis qu'il est capable de le faire, c'est parce qu'il l'a déjà fait. De mémoire, la vidéo qui a été supprimée depuis, c'était « Je suis dans un festival de comédie en France, c'est tout de la crise de merde, setup, prémisse, grimace, chandail comique, perruque, en veux-tu, en voilà, t'as de la crise de marde. » Et il est copropriétaire du Bordel Comedy Club, donc le Comedy Club de Montréal. Et pendant le festival, t'as beaucoup de Français qui viennent. Et je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'un Français est venu, a fait des jokes, Mike était là, a vu que c'était des jokes qui étaient à quelqu'un d'autre, est allé parler au gars. Le gars dit « Ah, mais c'est mon auteur, c'est qui ton auteur, c'est Kader. » Est-ce que c'est comme ça? Parce que ça serait logique que ce soit ça, mais j'ai pas la réponse à cette chose-là précisément.
Tout ce que je sais, un truc dans le genre, quoi.
Ben, en toute logique, je peux essayer d'aller trouver l'information parce que ça m'intéresse aussi. Et Mike Ward publie tous les humoristes maintenant associés de près ou de loin à Kader Raoun ne sont plus les bienvenus au Comedy Club, au Bordel Comedy Club. Et voilà. Après ça, Mike Ward entendu que Kader Aoun l'avait mal pris et avait appelé ses humoristes
pour, ça c'est fantastique
pour dire que s'il allait jouer au Bordel Comedy Club, il pourrait plus aller jouer au Paname. Je suis allé jouer au Paname. Honnêtement, c'est un choix entre jouer au Bordel Comedy Club à Montréal ou au Paname à Paris. C'est plus ou moins comme si genre l'équipe des Diables Rouges disait putain, si t'as joué genre à l'AS Marchand Famine, t'as plus le droit de venir jouer pour les Diables Rouges. Et le boss de l'AS Marchand Famine disait ouais, mais si tu joues pour les Diables Rouges, t'as plus le droit de venir jouer à l'AS Marchand Famine.
C'est peut-être sa première vanne vraiment drôle et originale pour le coup.
C'est ça. Et après, donc Mike a entendu parler de ce truc là et donc Mike Ward a fait un tweet.
Il est parti en full mode East Coast West Coast, j'ai vu
à fond. Il dit il pense que c'est East Coast West Coast, il va se rendre compte vite que je suis Snoop, je suis pas tuave. Et pour ça il a tweeté ce qui moi m'a fait mourir de rire: Kader Aoun est une petite vidange. Donc la traduction de little piece of garbage, it's little garbage. Et moi, ce que je me demande toujours, c'est... Comme... Tu sais que je l'ai rencontré, Kader Aoun, mais je savais pas c'était qui.
Ouais, je me souviens.
Donc, je suis au Paname, je finis de jouer, puis il y a quelqu'un qui parle à tout le monde. Du coup, il me parle. Puis, il me dit, c'est bien passé. Je fais, ouais, toi quoi, tu joues après? Ou tu dis, non. Excuse-moi, mais tu fais quoi ici? Il dit, ouais, c'est un peu à moi. Je fais, ah, OK, félicitations. Et j'ai su que je l'ai vexé parce qu'après, il a juste fait des jokes sur le fait que Montréal, c'était plus nul que Paris. Et honnêtement...
je m'en souviens.
C'est genre, puis à Montréal, les filles sont comme ça. Puis à Montréal, je fais, ben, je sais pas, moi, je suis né là, toi, t'as été quatre fois. Je suis pas d'accord, mais t'as le droit d'avoir tort si tu veux. Puis tu sais, si tu trouves Paris mieux, c'est pas grave. Il y a juste... les gens stupides qui ont un attachement irrationnel à leur ville. En général, tu le vois, parce que plus la ville, c'est une ville de chiottes, plus les gens sont fiers. Tu vois. Et qu'est-ce que ça peut foutre, tu vois? Paris est mieux. Fait cool, c'est toi qui as construit Paris? Non, ben, ferme ta gueule. Qu'est-ce que ça peut faire?
Ça me fait penser...
Oui?
Désolé, je te coupe. Ça me fait penser qu'hier, je suis tombé par hasard sur une vidéo de Paul Taylor sur YouTube. Il a une chaîne à lui, en fait. Je ne savais pas.
Je l'aime assez bien, lui. Moi, toute fois que je vois un truc de lui, je le trouve assez sympathique et je l'aime bien.
Ben ouais, effectivement, et il a un vlog en fait qui est plutôt quasiment en anglais, je pense. Et il a justement fait une vidéo où il compare Paris à Londres, vu qu'il connaît les deux. Et c'était assez drôle, assez intéressant, assez juste aussi. Et ça rejoignait un peu ce que tu disais.
Ben en fait, le point c'est que Paris c'est une ville super, et c'est tout. Il y a plein de trucs qui vont pas à Paris, il y a plein de trucs qui vont bien. La grosse période de gloire de Paris, c'est pas 2018. Ton grand-père, il a peut-être déjà gagné le concours du plus fort au monde, mais je pourrais me battre avec aujourd'hui. Pour moi, Paris est dans un home, c'est tout.
Plus ça va, plus c'est pire.
Non, mais Paris, voilà, Paris, pour moi, c'est grand-papa Simpson, tu vois. Ses meilleurs faits d'armes, c'est ceux qui racontent, puis une fois sur deux, c'est peut-être vrai. Tu vois un peu où je vais?
C'est Old Man Yell at Cloud.
Oui, c'est ta fille, je crois que c'est ton image préférée de tous les temps. La couverture de journal. Ben, ça me faisait juste rire de dire en disant que ça me dérange pas que t'aimes Paris, puis faire 10 minutes, au final, je le prends pas du tout. Puis tu sais quoi? C'est Disraeli la meilleure ville, puis je vous encule.
Mais donc voilà, il n'y a pas mille explications, ça doit être un truc comme ça, de vol de van. Et effectivement, il y a quelqu'un qui nous en a parlé sur Twitter. Harry Shafir en a parlé aussi dans un de ses podcasts.
J'aime bien Harry Shafir aussi d'ailleurs, il fait des chouettes trucs. Et je pense que je viens de trouver notre nouveau projet, Anthony. Je ne sais pas si tu savais, mais on va publier un livre.
Oui, je sais. Moi, je voulais appeler Derrière les rires, mais que tu n'as pas voulu.
J'en ai un meilleur que ça. Est-ce que t'es prêt?
Oui.
Harry Blackter et Lord Voldevan. Quand il était tout jeune, Harry était dans son berceau et Voldevan est arrivé et a voulu piquer son carnet de vannes, tu vois, parce qu'il écrivait déjà des vannes au berceau. C'est un prodige. Chris Moser l'a fait, vérifie, ouvre un livre d'histoire de temps en temps. Et puis là, il a résisté et Voldevan fait « Wouah! » Et pendant 7 livres, ça va être le combat entre Harry Blackter et Lord Voldevan. Je suis pas sûr pour Harry Blackter, j'avais Lollery Potter, mais Lollery Potter, c'est peut-être mieux, non?
Est-ce qu'on aura une préface de copie comique?
Ah, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses plutôt de ta note? LOL Voldevan. Non. Lollery Potter et Lord Voldevan. À fond. Maintenant, on va trouver les noms des autres personnages.
Je connais rien à Harry Potter. Donc.
Hermione Gagé. Ron Weasley. Professeur Dumblefarce. Et Harry au lieu de Harry Potter. Putain, c'était It was there all along. La réponse était dans nos cœurs. Harry Potter et Lord Voldevan. Garde, là on a recommencé. C'est pas tout le monde qui nous a trouvé encore. Donc je sais pas si on a encore des dessinateurs dans les gens qui écoutent ce podcast. Mais Harry Potter versus Lord Voldevan, si ça peut être la face de Mike Ward avec une éclair sur son front et la face de Kader Raoun en Voldemort.
Mais Voldemort, il n'est pas censé être chauve, parce que Kader, il a quand même de longs cheveux. Hein.
Trouvez une solution, Chris, vous êtes graphiste. Là. Vous avez du temps libre, vous avez choisi un métier où il n'y avait pas de job. C'est comme ça qu'on fait, on insulte les gens, puis après ça, ils font ce qu'on veut, c'est ça?
Ben écoute, ça fait 5 ans qu'on le fait, il n'y a pas de raison d'arrêter.
Ben non, parce que peut-être l'absence de succès.
Ah, maintenant que tu le dis.
Ça aussi, c'était devant nous tout le long. La réponse était dans nos cœurs.
Bon, moi je trouve que c'est.
Moi je peux plus continuer, je suis aussi dans une pièce fermée et il fait trop chaud.
Moi aussi je n'en peux plus.
Je suis comme l'iPhone sur la plage et boum, la boucle est bouclée. La boucle de ceinture de sécurité parce qu'on va faire un tour de bateau, le bateau du rire. Sur la mer du fun, on arrive jusqu'à la baie de la comédie et c'est là qu'est le château de Comedy News Weekly.
Pas mal.
Putain, j'ai travaillé pour un slow clap parce que tu m'as teasé de slow clap sur Internet cette semaine. Tu m'as contacté. Il me semble qu'il était tard pour moi. Donc, moi, tard, c'est toujours le moment où, juste après souper, j'ai un peu bu jusqu'à ce que après ça, c'est là que je suis plus souple. Après ça, je le suis pas du tout.
Donc, c'est le premier truc que j'ai dit à K, donc ma copine. Je me suis retourné. J'ai juste fait défiler mon téléphone. Il y avait genre 1000 gifs. Tous très très bien, vraiment, ça je tiens à le dire. Je dis, bon ben je pense qu'il a bu.
Totalement. Il devait être genre 1h ou 2 du matin pour toi. Moi j'étais en feu et tu me parlais. C'était le bon moment parce que j'étais créatif, mais là les chakras de la création étaient ouverts et je dirais aiguisés comme mes couteaux de la comédie.
Et attends, et j'ai envie que les gens sur Twitter nous disent merci Anthony parce que j'ai évité un podcast que tu voulais faire sur ce moment-là où tu m'as dit. Fuck it, on sort les micros.
On fait un épisode en live.
Je te mets, t'es fou.
Tu veux jamais qu'on s'amuse. Ça, c'est toi. Hein. T'es le sérieux, t'es le carré du groupe. T'es vraiment le nerd de la revanche des nerds. J'étais à court de références. Je vais aller refaire le plein de références, puis il faut que je reprenne des notes pour des nouvelles farces.
Ouais, ouais. On les publiera en fac-similé dans le livre. Ça va être un beau livre, franchement.
Ouais. Et si je peux, je voudrais juste terminer avec un truc vraiment comique. J'ai pas pu le prendre en photo parce que j'étais en voiture et je désirais pas mourir. Dans ma région, c'est pas une région où les gens sont jeunes en moyenne. Mais c'est pas parce que tu n'es pas plus jeune que tu ne désires plus trouver l'amour, Anthony. On est d'accord avec cette prémisse.
Tout à fait d'accord.
Et donc, il y avait une pub de ce que j'imagine une genre d'agence matrimoniale. Donc, c'était un gros panneau avec deux personnes d'un âge blanchissant qui avaient l'air fou amoureux, mais plus de l'amoureux de complicité. Tu sais ce qu'on cherche à partir d'un certain âge quand la passion devient tendresse et les érections deviennent Netflix. Tu vois un peu la période dont je veux parler, ou comme moi j'appelle ça, genre mes meilleurs souvenirs. Mais... Et il y avait un numéro de téléphone après, et c'était « Ne cherchez pas sur Internet, ne cherchez pas l'amour sur Internet ». Et genre, et c'est vrai que tu te dis à ce moment-là, genre, « Kids today with their Game Boys ». Et puis juste en dessous, c'était écrit « www.amour et je sais pas quoi.com ». Et je trouvais que faire ta pub sur le fait qu'il faut pas t'aller sur Internet chercher l'amour, en affichant ton site Internet, il y avait quelque chose où on ne reculait devant rien.
C'est un peu du génie.
Et la semaine prochaine, je vous raconterai comment je me suis fait retirer des listes d'appels automatiques de télémarketing suite à une conversation beaucoup trop longue avec quelqu'un qui voulait m'offrir une séance gratuite d'astrologie, de voyance. Et malheureusement, quelqu'un m'avait rappelé pas longtemps avant que ces gens-là travaillent au quota, donc ils doivent faire le plus d'appels possible. Et la seule règle, c'est qu'ils n'ont pas le droit de raccrocher.
Oui, c'est toi qui te peux raccrocher, oui.
Et laisse-moi dire que j'ai utilisé cette règle à mon avantage en lui faisant répéter mes consignes.
Enfin.
Et donc, la semaine prochaine, ben, la semaine prochaine, au prochain numéro dans 2 mois, on refait ça. Et la prochaine fois, on explique peut-être le Patreon, comme ça les gens peuvent commencer à nous donner leur pognon, nous encourager sur Internet.
Yes, ce sera plus ou moins fin août. Et je pense qu'on peut peut-être essayer de faire un petit truc. Le 29 août, en fait, c'est les 5 ans du podcast. Le premier épisode a été publié un 29 août, donc je m'étais dit, je sais pas, on fera un commentaire audio du premier épisode.
Ça me fait fort rire. On peut retrouver des épisodes. Il y a quelqu'un qui nous a suggéré de mettre les bêtisiers, et Anthony a dit qu'il y en avait 567 heures de faux non enregistrés, mais qu'on gardait ça pour plus tard. Il y a plein de trucs. Mais en fait, j'ai vraiment envie de m'amuser fort cette année, donc si vous avez une idée vraiment débile en disant « ils ne feront jamais ça », envoyez-la moi entre 19 et 20 heures à tous les soirs, donc entre minuit et 2 heures, heure belge, je vais toujours vous répondre « of course ».
Je confirme. Bon, à la prochaine fois.
Si Dieu le veut.
Allez, salut.
Bye bye.